Pierre Aditi, bonjour.
Bonjour.
Donc vous êtes à l'affiche de Maestro, une comédie tendre, bouleversante, signée Bruno Schisch, et vous interprétez François Dumas, chef d'orchestre. Alors selon vous, un chef d'orchestre, c'est une main de fer dans un gant de velours, un chef d'armée ?
Ah, c'est quelqu'un en tout cas qui dirige, au sens pur du terme, ça c'est sûr. Alors donc, effectivement, il y a quelque chose de... pas de militaire, mais enfin, il y a quelque chose là-dedans, oui. Il tient le monde dans ses mains, et des mains assez fermes. Mmh. Voilà. En particulier d'ailleurs, avec son fils. Et c'est d'ailleurs ce qui m'a intéressé dans ce scénario, c'est que, pour l'avoir vécu moi-même avec mon propre père, voilà, simplement, mon père qui est un phare pour moi, mais à une certaine époque, il était peintre et il n'était plus je n'étais plus le fils de Georges Arditi, mais il était le père de Pierre Arditi. Et ça, il n'a pas très bien vécu. Après, ça, c'est, tout ça s'est arrangé, bien sûr. Hein, bon, mais...
on sert finalement de ses émotions
Toujours.
Mmh.
Toujours.
Mais
si on
ne
se sert pas de ses émotions...
Pour quel rôle, je veux dire.
Oui, mais d'une manière générale. Moi, je suis un acteur stanislavskien, vous comprenez ?
Mmh.
Voilà. Donc, c'est-à-dire, je me sers de moi pour incarner l'autre. Je ne crois pas au dédoublement de l'acteur, moi. Je crois qu'on passe sa vie à jouer des petits morceaux de soi qu'on met au service d'un autre, qui apparemment nous serait étranger, qui en réalité est un cousin germain. Il suffit d'aller chercher dans ses propres marécages pour nourrir les marécages de l'autre. Donc, c'est pas de la tarte, ça laisse pas intact, parfois même, mais c'est, à mon sens, obligatoire. C'est la méthode stanislavskienne. Use it, sers-toi de toi.
C'est un petit côté thérapeutique.
Je ne peux pas dire ça. La seule... Non, je ne peux pas dire ça. Non. Non, c'est beaucoup plus... Non, c'est plus excitant que ça. C'est-à-dire que, au fond, c'est croire qu'on contient tellement de choses qu'on ne peut pas... On ne peut pas faire du carton-pâte avec ce qu'on sait de soi et donc avec ce qu'on sait des autres. On ne peut pas faire ça. Il y a forcément un engagement humain et artistique, personnel. La méthode, ça suffit pas. D'ailleurs, moi, il y a quelquefois des collègues que je vois quelquefois très bien d'ailleurs jouer, mais on voit bien qu'il y a tout d'un coup, il y a une barrière, un mur qu'ils ne franchissent pas. Et quand ils ne le franchissent pas, il y a quelque chose qui n'a pas lieu. Je suis désolé, mais c'est comme ça. Le danger, bien sûr, dans ce genre de méthode, c'est de faire du psychodrame. C'est-à-dire, je me gratte le bouton, ça saigne. Non, c'est pas ça. C'est pas ça, simplement se rappeler, c'est comme une mémoire sensorielle. Quand j'ai commencé à tourner ce film et que je suis arrivé à la fameuse scène, la longue scène où d'un coup le père déballe tout au fils, qui déballe tout mais en silence, l'autre, eh bien, quand il y a ça, quand il se passe ça, on ne peut pas se réfugier vers quelque chose qui serait fabriqué.
Mmh.
Non, non, il faut que ce soit quelque chose qui est, comment dire...
Du ressenti.
Non, mais ressenti, c'est la moindre des choses. Si on ne ressent pas ce qu'on joue, il faut quitter la profession. Non, non, c'est pas ressenti. C'est qu'il faut absolument que quelque chose de soi, d'intime de soi, soit proposé à celui... Pardon, à celui qui regarde. Voilà. Sinon, circuler, il n'y a rien à voir. Il n'y a rien à voir. Ça ne sert à rien.
Quand on découvre un comédien qui interprète soit un musicien, soit un chef d'orchestre, on dirait qu'on attend toujours le faux mouvement, un peu comme quand on va au cirque, oui. Qu'on voudrait que le trapéziste tombe. Et ici, bravo, rien à redire quand même, non ? Ça fait beaucoup.
C'est vous qui le dites, moi, ça me fait plaisir.
Beaucoup de préparation quand même, non ?
Alors,
surtout notamment avec cette synchronisation.
Oui, des deux, oui. Ouais. Alors, on a travaillé, hein, bien sûr. Mais moi, j'avais... d'abord, je suis issu d'une famille qui était très mélomane. Mon père et ma mère. Et donc, j'ai été biberonné à la Belgique, d'abord, puisque ma mère était belge. Une fois que j'ai été biberonné à la Belgique, pour toujours. Alors, j'ai été aussi biberonné à ce qu'on appelait à l'époque la grande musique. C'était la musique classique. La grande musique, je ne veux rien dire. Et donc, Mozart, Beethoven, Bach, enfin bon. Et je devais avoir une douzaine d'années... j'avais un électrophone, ça s'appelait comme ça, un Tepaz, qui rayait tous les disques, c'était des vinyles. Mais donc je mettais ça les samedis ou les dimanches après-midi, j'ouvrais la fenêtre de l'appartement, je faisais cracher ça, à tue-tête, Et je dirigeais cet orchestre imaginaire en espérant que les jeunes filles qui passaient dans la rue en contrebas lèveraient la tête en disant mais qui est ce très beau jeune homme, quel talent il a. Vous voyez, donc ça, vous voyez, mais tout ça, quand je parle de Stanislavski, c'est remonté à la surface tout de suite. Après, j'ai joué chez Jean-Louis Barrault et Madeleine Renaud une pièce qui parlait de la vie des Strauss, père et fils. Johann Strauss père, Johann Strauss fils. Même rapport, hein. Ils ont eu un rapport épouvantable, le père et le fils. Et j'ai appris donc à diriger la marche de Radevski qu'avait écrite le père, et Mona du Bleu et tout le reste, qui le fils, avec dans la main un archet de violon, parce qu'il jouait aussi du violon, Johann Strauss fils, et il dirigeait en même temps. Donc tout ça m'a fabriqué tout de même. Et quand il a fallu se recoller là-dessus, bah, j'étais pas complètement perdu. Voilà, j'ai retrouvé un certain nombre de choses, mais qui étaient différentes d'ailleurs. Et Yvan et moi-même, nous ne sommes que les chefs d'orchestre des hommes que nous sommes. Lui est plus janséniste et plus rigoureux dans sa machin, et moi je suis plus extraverti et plus italianisant, plus berchtanien, quoi. Bon, voilà.
J'ai appris en préparant cette rencontre qu'en fait, le chef d'orchestre anticipe le mouvement. Oui. Et donc, parfois, on a l'impression, quand on est spectateur, de dire, mais...
qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là ? Ils en parlent. Mais oui, mais justement, il anticipe, parce que à partir du moment où, s'il le fait, au moment où les autres avancent ça, il est en retard. Donc évidemment, il faut... C'est ça, moi, ça m'a beaucoup perturbé. Ça. Mais effectivement, il disait non. Tu es en retard. Là. Au moment où tu fais, ils viennent de le faire. C'est trop tard. Il faut que ça vienne avant. Mais je ne sais plus qui avait dit ça. Mais non, ce n'est pas Bernstein ou quelqu'un comme ça qui avait dit, mais ou peut-être Barenboim, je ne sais plus très bien. Il avait dit, mais vous savez, le travail du chef d'orchestre, il se fait totalement en amont. Le soir du concert, le chef d'orchestre pourrait très bien ne pas être là. Et ça m'avait dit, non. Il est là pour rappeler ce qu'on a travaillé avant, cela, sur des phases, comme ça. Mais ils le savent. L'orchestre peut le jouer. Une fois que ça a été travaillé en amont, c'est pour ce chef d'orchestre. Mais c'était une pointure qui racontait ça. Il disait, on pourrait après tout ne pas y être.
Alors vous avez quand même dans votre filmo rencontré des réalisateurs, vous avez travaillé avec eux d'ailleurs, qui adoraient la musique. J'ai noté au passage, Bedos, Lelouch et René quand même.
Ah oui, oh bah,
c'était des
René,
des...
alors là lui c'était la musique avait une part extrêmement importante dans son cinéma. D'abord par comment dire les voix de ceux qu'il choisissait pour incarner dans ses films. C'était aussi des instruments de musique pour lui, les acteurs. Et puis, la musique, quand on a fait L'amour à mort, par exemple, la musique d'Enzé, ou alors après, les fameuses comédies musicales qu'on a fabriquées après, il était, la musique avait une part énorme dans sa vie.
Et Bruno, vous le mettez où par rapport justement à Nicolas, à Claude et à Alain
Bruno.
Bruno Chiche.
Ouais. Bah Bruno, la musique, il sait de quoi il parle. Il sait de quoi il parle. Bruno, c'est autre. Bruno, je l'adore parce que c'est quelqu'un qui doute beaucoup. Il a une grande humilité, Bruno Chiche. Et moi, je le fais marcher souvent parce que c'est mon côté, j'aiguillonne. Hein, bon. Mais c'est un type absolument merveilleux. Et il se nourrit, bien sûr, de ce que les acteurs apportent. Mais il dit toujours, mais alors, on ne dirige pas Yvan Attal, on ne dirige pas Arditi. Mais si, on nous dirige, bien sûr que si. Le simple fait de nous regarder comme il nous regarde, c'est déjà de nous diriger. C'est vital, c'est absolument vital. La manière dont il regarde et dont il peut nous dire, nous raconter ce qu'on a fait. Et donc, à ce moment-là, on entend ce qui a été pris par lui, ce qui ne l'a pas été. Ça fait partie de la direction d'acteur, ça. Donc il est trop modeste, Bruno Chiche.
Alors là, ce qu'elle a, donc en fait, c'est une sorte de Graal pour tous ces
gens-là. Graal pour tous ces gens-là.
Est-ce que de votre côté, en tant que comédien, vous avez eu des scènes aussi mythiques que vous avez foulées ou que vous souhaitiez fouler?
Oui, non, je n'ai pas. Si, j'ai vu des concerts quand même.
Non, je veux dire en tant que comédien. Je veux dire,
oui.
Est-ce qu'il y a l'équivalence par rapport à la Scala pour un chef d'orchestre?
Bon, ben, je vais vous dire, les terrains les plus marquants, ce sont pas des géographies, c'est des moments de vie avec celui qui a proposé le film en question. Ben, je pense à René tout de suite, mais je pourrais parler de Lelouch, mais je pourrais parler de Rapneau, je peux parler de beaucoup de monde, j'ai travaillé avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Et pour un acteur, la seule géographie qui vaille, c'est le metteur en scène. Est-ce qu'il est capable d'imprimer justement chez l'acteur pour créer une sorte de palais à venir ? Voilà, donc ça, ça vaut toute escalade du monde. Mais c'est très difficile.
Alors, Yvan, comédien, c'est le même que le Attal réalisateur ?
Oui. Mais oui, moi j'ai la faiblesse de penser, j'ai toujours pensé que j'étais l'acteur de l'homme que je suis, et il est lui l'acteur de l'homme qu'il est, le metteur en scène de l'homme qu'il est. Avec parfois des facéties, il est facétieux, Yvan, je l'adore. Dans le film précédent, je l'avais fait avec lui, les choses humaines, il faisait passer des coups de fil dans des SMS, il me dit, mais je n'ai jamais vu quelqu'un qui passe un SMS comme ça, mais tu as vu ce que tu fais ? Voilà. Je foutais de ma gueule, mais c'était charmant, c'était délicieux. Oui, on peut pas être. C'est toujours nous, tout ça. Moi, je suis pas metteur en scène, hein, mais je saurais diriger un acteur, mais faire un film, c'est une autre paire de manches. Je saurais diriger un acteur. Mais on peut pas, encore une fois, le matériau premier d'un acteur et d'un metteur en scène. Mais c'est lui-même, et c'est sa vie. Et c'est lui, c'est la vie, et donc plus précisément, la sienne. C'est là-dedans qu'on va chercher, puiser, ce qu'on a quelquefois dans ses valises, quand on les a pris avec nous, ou quelquefois qu'on n'a pas et qu'on découvre sur le tas, si on se dit, mais oui, tiens, après tout, pourquoi on ne ferait pas ça, pourquoi on ne le ferait pas ? On ne le ferait pas entrer dans cette humeur-là, un truc comme ça, et puis tout d'un coup, c'est comme quelqu'un qui écrit, quoi. On écrit, on fout à la poubelle 10 pages, puis tout d'un coup sur la 11e, il y a 4 lignes qui valent le coup, on les garde et on continue à rebâtir là-dessus. Bon, alors c'est les acteurs, les metteurs en scène, c'est des architectes d'eux-mêmes, contrairement à ce qu'ils pourraient dire. Moi, je crois ça profondément. D'une certaine manière, moi, je suis devenu un acteur pour, d'une manière très égocentrique, parler de moi, mais je le revendique absolument. J'ai fait ça pour ne pas être anonyme. Voilà, c'est comme ça, et c'est très bien comme ça.
Un autre qui n'était pas anonyme, c'est Clémenceau. Ah. Vous venez de terminer le tournage de Clémenceau et Marguerite. Ouais. Est-ce que vous avez discuté du président avec André Dussolier qui venait présenter le Tigre, oui, président de le oui, film de, oui. de
Alors
Tursuit.
C'est pas la même période, hein, parce que avec André,
c'était avant.
C'est son rapport avec Deschanel. Ouais. Et moi, c'est les dernières années de sa vie, c'est les
avec
cinq
Marguerite.
Dernières années où il est tombé amoureux de son éditrice, Marguerite. Et donc c'est leur lien, qui est un lien d'amour et qui oui, on ne peut pas parler autrement d'un lien d'amour qui est apparemment platonique. C'est pas clair, hein. On sait pas trop. C'est pas trop si par hasard ils ont pas. Elle avait quand même 40 ans, plus de 40 ans de moins que lui. Mais lui, le personnage est un personnage que je connaissais comme tous les Français, mais je connaissais pas en réalité, le père de la victoire. Alors je suis rentré, grâce à un très beau bouquin de Nathalie Saint-Cricq, un livre formidable, et ça m'a envahi comme rarement. Alors ça.
Alors il y a une phrase que. Qu'on attribue donc à Clémenceau, je vous aiderai à vivre et vous m'aiderez à mourir. Vous qui allez avoir d'ici quelques jours 78 ans,
oui.
ça vous interpelle ?
Oui.
Quelle est votre vision de la mort ?
Je n'ai pas de vision de la mort. Comme dirait Proust, ça m'embête. Voilà. J'en ai pas peur, ça va arriver, je le sais. Ça m'embête. Je ne voudrais pas que ça s'arrête. Ça va s'arrêter. Et donc, c'est pour ça qu'on me dit, mais tu n'arrêtes jamais. Non, je n'arrête jamais. Je vais avoir toute la mort pour arrêter. Donc, ce n'est pas la peine d'arrêter avant ça. Je n'ai pas de vision de la mort. J'ai demandé un jour à ma mère, j'avais 7 ans, c'est quoi, maman, la mort ? Elle m'a dit, mon chéri, c'est rien du tout. C'est comme quand tu dors, mais tu rêves plus. Et donc cette femme admirable qui est là, à laquelle je parle trois fois par jour, qui est elle qui était belge, qui m'a biberonné ici. Il y a son fantôme qui traîne par là. Cette réponse-là m'a terrorisé pour le restant de mes jours. Et donc, je dors beaucoup moins, pour ne pas me rendre compte que je ne rêve plus. Et donc, pour moi, le sommeil, c'est la mort. Alors, si vous voulez savoir quelle est ma vision de la mort, c'est le sommeil. C'est pour ça que je ne fais pas. Oui, on va y aller.
Ouais.
On va y aller, voilà. C'est tout. Je ne veux pas... Non, je sais que ça va arriver. Je l'emmerde. Elle m'emmerde, mais je l'emmerde aussi. Et... le jour où elle viendra, elle viendra. J'ai regardé, c'est une image qui est restée gravée dans ma tête. Pour moi, la mort, c'est une, c'est comme dans les pièces de Beckett. Alors, c'est une route qui serpente sur un terrain plat, avec un arbre mort et en plein milieu comme ça. Et puis une sorte de ligne, voie de chemin de fer qui serpente et qui se confond avec la ligne d'horizon et qui disparaît. Et puis un jour. J'ai revu ça, ce paysage, mais il y avait une tache noire au bout de la ligne d'horizon. Je me suis dit, tiens, ben, ça y était pas ça. Bon. Et puis, des années plus tard, je me suis approché encore et la tache noire est devenue plus grosse. Et puis, quelques années après, la tache noire s'est précisée. C'est un butoir de train. Voilà. Donc, maintenant, je sais qu'au bout de cette ligne, qui est cette ligne qui serpente et sur laquelle je serpente m'attend l'arrêt de cette marche. Ça s'appelle la mort, mais je n'ai pas encore atteinte et elle n'est pas près de m'avoir.
Pierre Dittier, un grand merci. On rappelle Maestro qui sort le 7 décembre.
7 décembre.
Merci.
Merci à vous.